c'est Bruno Canard que l'on retrouve pour l'émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Aujourd'hui, nous allons écouter Alfred. Avec Maltempo, il clôt sa trilogie italienne qui a pour cadre ses Italies affectives, celles de son enfance, celles rêvées, fantasmées. Maltempo, comme son nom l'indique, est nourri de musique. Mimo, 15 ans, dans un coin perdu de l'Italie du Sud, va participer au casting d'une célèbre émission de Radio Crochet. Il embarque sa bande de potes et le rêve d'échapper à la fatalité d'une existence au rabais devient obsessionnel. Nous serons avec Alfred à partir de 14h15. Nous discuterons de ces liens puissants entre dessin, musique et théâtre. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien est en technique. Pour illustrer cette émission avec Alfred, j'ai choisi Tom Waits et son album Orpheans. Une brève. Ce soir, vernissage de l'exposition Animaux sauvages, regards croisés sur l'hôpital de la faune sauvage qui est à La Roque. Ces regards croisés, ce sont ceux de Sarah Desteuck, qui est photographe. Il y a les peintures et les dessins d'Isis Olivier et les aquarelles de Justin Pivoteau. Le vernissage est à 18h et de l'autre côté, c'est à Ganges. Les Shadocks. Est-il raisonnable de faire confiance au Shadok? Mais bon, ça, on verra. Pour suivre, je voudrais évoquer avec vous le dernier livre de Benjamin Lacombe, L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. C'est signé pour la partie texte de Sébastien Pérez, qui a déjà collaboré avec Benjamin Lacombe. Et Benjamin Lacombe, c'est ce dessinateur qui a une griffe, un style fort, mais qui n'est pas du tout figé, mais qui a des points installés, des éléments très forts, comme par exemple son rapport au regard, son rapport aussi à l'enfance, à l'écriture des personnages, ces ambiances qui sont souvent nauséeuses et qu'il baigne dans une puissance graphique assez étonnante. Alors Sébastien Pérez est un scénariste qui est romancier de livres pour la jeunesse qui aime décaler les figures des archétypes de la fiction. Avec Les Sorcières, il a créé Généalogie d'une sorcière. Pour les fées, ça a été L'Herbier des fées. Il s'est emparé de la figure de Peter Pan et a écrit Le Journal de Peter. Et pour les super-héros, il s'en est occupé et il a écrit Les super-héros détestent les artichauts. L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, ce sont de nouveaux décalages répondant à la question, mais quelle enfance ont-ils eu? Pourquoi sont-ils si méchants et méchantes? 20 portraits sont présentés dans ce livre. On a un index des personnages qui se trouvent en fin de livre. Et les deux auteurs consacrent 2 voire 4 pages aux personnages, aux héros, aux méchants qu'ils veulent présenter. Exemple, Jendo Dewal, qui est une sorte de c'est la reine de la calamité. Je lis le premier paragraphe de cette présentation de Jendo Dewal. L'œuf venait à peine d'éclore, De ses petites mains, la fillette écarta les morceaux de la coquille et en sortit entièrement. Devant elle, des hommes la fixaient en silence. Elle vit le dégoût embraser leurs regards. Guénaud, son créateur, se tenait à ses côtés. Le dieu suprême la présenta, Djendo Dewal, mère de la calamité. De ses trois yeux, la sorcière contempla le monde comme personne avant elle, distinctement. Elle entendit ce que chacun pensait, tous avaient peur. La présentation, à chaque fois, de Sébastien Pérez est relativement courte, mais il a une faculté pour poser les ambiances tout à fait étonnantes. On sent qu'il y a une complicité entre les deux auteurs et Benjamin Lacombe à imaginer les enfances de ces différents grands personnages de fiction que beaucoup de parents connaissent, que déjà un certain nombre d'enfants peuvent connaître aussi. Et il y a donc ce dessin de Benjamin Lacombe qui se déploie sur de grandes images. Il y a un travail sur la peinture, avec souvent une palette relativement réduite, pour garder aussi bien une homogénéité, une sorte d'unité, mais qui va jouer également sur quelques contrastes, mais qui va donner donc une ambiance tout à fait particulière à chacune de ces peintures. Il y a chez Benjamin Lacombe toujours une sorte de solution graphique pour nuancer, affiner, être constamment dans une précision qui fait que l'illustration va parfaitement coller au texte et va vraiment susciter et stimuler l'imaginaire du lecteur. Il va, par exemple, travailler sur les transparences que l'on va pouvoir découvrir dans le reflet d'un miroir, dans la brume d'un paysage. Il y a ce travail sur les textures, sur les différents tissus, sur les cheveux, les cheveux de Barbe Bleue qui vont vraiment ressortir pleinement dans l'image. Et puis, ce qui est aussi une des marques essentielles de Benjamin Lacombe, ce sont les regards. Et là, les regards de ces méchants, vilaines, et affreux, eh bien, va marquer plus d'un lecteur. Ça risque d'être un livre très réjouissant pour les enfants, parce qu'il a ce côté un peu dérangeant, qui joue vraiment avec la peur, et ça, c'est une des grandes forces du conte. L'enfance des méchants, des vilaines et des affreux, c'est donc de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. C'est publié par les éditions Margaux et ce livre est au prix de 20 euros. J'ai arrondi. Eh bien, cette fois, c'est les moustiques. Je voudrais poursuivre avec une bande dessinée directement reliée à la musique, puisque c'est la biographie de Renaud, intitulée « Né sous le signe de l'Hexagone ». Et c'est signé Alain Gaston Rémy, qu'on avait entendu sur cette antenne pour son livre sur son père. Et puis Bertrand Dical, qui est un scénariste, écrivain, essayiste, qui écrit sur la musique. Alors, immédiatement, lorsqu'on a le livre en main, cette biographie n'est pas un succès d'année, c'est pas une tranche de vie. L'objectif était vraiment de montrer en quoi Renaud est un des chanteurs essentiels de la seconde moitié du XXe siècle et de la première partie de l'actuel. Et donc, c'est une volonté que les les auteurs, alors, ils ont bien sûr demandé à Renaud comment, s'il était d'accord. Lui, il n'a posé aucun problème. Ils avaient totale liberté. Et c'est important que cette biographie soit en bande dessinée, puisque Renaud est un grand amateur de bande dessinée. Alors, il y a donc... la présentation qui démarre avec les débuts où on retrouve l'information que Renaud a un jumeau qui s'appelle David. Donc Renaud et David Séchant, ils ont un autre frère et sœur, et il y a donc l'enfance avec les relations au père qui sont assez difficiles, et on est toujours donc dans ces détails, et notamment comment la société va être perçue par Renaud, qui va sentir cette contestation monter et trouver une intensité tout à fait particulière au moment de mai 68. Il y a donc les auteurs qui vont accompagner cette mise en place de l'écriture, et notamment avec cette chanson Hexagone, comment ils ont présenter leurs morceaux sur les terrasses, dans les cours d'immeubles. Et puis, une fois, ils sont allés à un spectacle de Coluche pour chanter devant la file d'attente. Et ça a été un démarrage. Et le succès de Renaud a été assez exceptionnel. Dans le livre, il y a une ponctuation qui est faite par la fanzone, où Gaston va donner son point de vue, Bertrand Dical également, mais qui est plus le point de vue du fan, comment l'image de Renaud a marqué, quel que soit l'endroit où l'un et l'autre habitaient. Et c'est aussi important parce que ce n'est pas simplement une chronologie d'événements, mais c'est aussi... avec le ressenti des auteurs que passe et que prend une intensité cette biographie de Renaud. Alors, au niveau du dessin, bon, on a déjà évoqué le dessin à l'énergie de Gaston qui, sur ce livre d'ampleur de 320 pages, en fait, il y va, il utilise pleinement cette caractéristique de la bande dessinée qui est de ne pas être obligatoirement dans le détail pour faire exister les différentes scènes. Il y a par exemple la présentation du Café de la Gare où Renaud va faire un remplacement d'un comédien, sa discussion avec Dewaere. On n'est pas dans une précision que d'autres auteurs qui vont finalement rentrer dans une besogne. Gaston préfère être sur l'énergie pour avoir cette intensité et cette vivacité que va lui donner son trait. Il capte la ressemblance de Renaud suffisamment pour que nous on soit dans cette intimité du personnage sans pour être là avec une sorte de réalisme qui peut être très lourd, en tout cas pour la réalisation d'un tel livre. La mise en couleur suit pleinement le mouvement, elle apporte sa lisibilité et permet donc aux personnages et aux différentes scènes de se déployer. Un côté très attachant de cette biographie, c'est justement toute la partie doute, mais un doute très violent qui va se transformer en dépression, en paranoïa, Renaud va imaginer d'être suivi par le KGB, va avoir des peurs puissantes et ça va complètement brider son écriture. Et la façon de présenter cette période par Bertrand Dical et Alain Gaston est Rémy est toujours pleine d'empathie, d'émotion, et on est vraiment dans cette intimité de Renaud. Et ça, c'est une des très grandes réussites de ce livre. Et l'Hexagone qui a donné son titre à cette biographie, est un des premiers morceaux de Renaud qui a encore toute son actualité. Renaud naît sous le signe de l'Hexagone, de Bertrand Dical pour la partie écriture et pour Alain Gaston Rémy pour la partie dessin et mise en scène. C'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Les 320 pages de cette biographie dessinée sont au prix de 30 euros et le livre a été imprimé en France. Musique. Maltempo clôt la trilogie italienne démarrée il y a 10 ans avec la parution de Come Prima, poursuivie par Senso 6 ans plus tard. Nous sommes dans les lumières saturées de l'Italie du Sud. Mimo, dans son village, vivote, coincé entre le marteau de la mafia et l'enclume des petits boulots. Le passage d'un casting pour une célèbre émission de Radio Crochet réveille ses rêves de guitariste de rock adulé. Avec sa bande de potes, les répètes commencent, mais rien n'est simple, tout dérape en permanence. La musique occupe une place prépondérante dans ce récit. Tout comme pour Come Prima, Alfred utilise un deuxième style de dessin pour représenter cette transe des musiciens. Dans cet art narratif dépourvu de son, le dessin rend présent la musique. Le son des guitares saturées, Alfred a un rapport puissant et intense avec la musique. Il dessine un livre sur scène avec des artistes comme Brigitte Fontaine et Areski Belkacem, Raphaël Imbert ou J.P. Nataf. Il a suivi pendant 3 ans Étienne Dao pour la réalisation du cahier dessiné de son précédent disque. Il a également dessiné un journal de bord depuis les coulisses de la tournée d'Arthur H. Les récits de cette trilogie sont nourris d'une pratique quotidienne du croquis, d'expérimentation continuelle pour répondre aux questions de dessin de l'artiste. L'expression « écriture dessinée » avec Alfred a tout son sens. Il fixe les grandes lignes de l'histoire, les met en image avec un premier jet des dialogues qu'il rendra définitif avec la finalisation des pages. La mise en couleur dans Mal Tempo sature les lieux de lumière où baignent des espaces intérieurs de teintes narratives. Et puis il y a aussi la beauté de la nuit. Nous sommes avec Alfred pour évoquer ces liens puissants entre dessin, musique et théâtre. Bonjour Alfred.
Bonjour, merci pour cette belle présentation.
Merci. Alors, est-ce que vous êtes musicien ?
Oui, je suis depuis toujours. Le dessin et la musique, pour moi, ont toujours cohabité, tout comme le théâtre. Donc c'est vrai que je dessine en musique au quotidien, dans mon atelier. Il y en a toujours un moment que j'ai besoin de mettre pour me laisser un peu transporter. Et l'idée pour moi, régulièrement en tout cas, de dessiner dans des théâtres, dans des concerts, ou d'essayer de représenter du son avec des traits, est quelque chose qui m'accompagne et qui m'obsède un peu depuis des années déjà. Ouais.
Alors est-ce que Mal Tempo, c'est un défi que vous vous êtes lancé pour vous confronter à cette représentation de la musique et de la musique rock notamment ?
Alors, c'était pas un défi, non, en revanche, c'est venu par la musique. C'est-à-dire que c'est en retrouvant chez mes parents, il y a quelques années, un cahier dans lequel se trouvaient des paroles de chansons que j'écrivais quand j'avais moi-même 16 ans en Italie, que l'envie de me servir de cette matière-là pour en faire un récit, donc plus de 30 ans après les avoir écrites, ces chansons, l'envie de piocher dans cette matière-là pour en faire un livre et essayer de faire un écho entre la bande dessinée que je fais aujourd'hui, la musique que je faisais quand j'étais ado, et trouver l'endroit où ça pouvait se rejoindre, c'est quelque chose qui m'a immédiatement paru, en tout cas pertinent avec mes préoccupations du moment. Donc c'était pas un défi, mais c'était presque une évidence en retrouvant ces cahiers de me confronter en dessin à la musique.
Alors avez-vous imaginé Mal Tempo ? Parce que ça clôt donc cette trilogie italienne, on est dans le sud de l'Italie, on a des ados et adultes et jeunes adultes musiciens. Comment ça se passe, cette phase d'imagination d'un récit ?
Alors, en fait, c'est déjà un terrain, un territoire, l'adolescence, un territoire un peu, le territoire hostile de l'adolescence, c'est quelque chose que j'avais envie de creuser depuis un moment. Ma propre fille a 15 ans et je note beaucoup de choses depuis quelques années qui me passionnent. Ça me replonge dans ma propre adolescence. Donc le premier travail, j'allais pas se dire, il était pour moi de me replonger dans mes propres souvenirs d'adolescence en Italie, puisque je suis donc moitié italien par mon père, et que même si je suis né en France, j'ai passé énormément de temps de 0 à 20 ans en Italie. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de cette période là-bas. Donc mon premier travail a été de retourner voir un peu qui j'étais déjà à cet âge-là, et notamment j'étais un garçon qui aimait écrire des chansons à la guitare pour essayer d'attirer l'attention des filles. Ça marchait pas forcément, mais ces souvenirs-là ont servi de point de départ au récit de Mal Tempo, tout comme d'ailleurs les deux autres livres de cette trilogie que sont Come Prima e Senso, qui sont tous les trois, ces trois livres-là sont nourris de souvenirs intimes et personnels dont je fais des fictions. Donc c'est la même démarche à chaque fois pour moi. Retourner voir ce que j'étais à tel moment de ma vie en Italie et aller y piocher quelques ingrédients d'histoire.
Alors, vous évoquiez dans un entretien, je l'ai cité, vous avez vraiment une écriture dessinée, donc il n'y a pas un scénario fini. Mais comment va maturer cette trame générale sur laquelle vous allez écrire en dessinant ?
Alors c'est une question assez intéressante, parce que j'ai du mal moi-même parfois à cerner comment, quel cheminement prend un récit. Je ne construis pas, je n'invente pas d'histoire à l'avance. Voilà, pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, je travaille en semi-improvisation au jour le jour mes livres, et je m'appuie sur une 10 ou une douzaine de balises un peu, de temps fort que je note sur des post-it et qui me qui me serviront juste de fil rouge à un récit que je vais ensuite inventer à mesure que j'avance dedans. Et pour ça, je me nourris vraiment de tout ce qui m'arrive, de l'humeur dans laquelle je me trouve au jour le jour. Une scène que j'avais éventuellement envisagée extrêmement lumineuse peut prendre une toute autre tournure si ce jour-là ou à ce moment-là, je suis dans une moins bonne configuration d'esprit. Donc je m'autorise vraiment le truc, c'est que je ne veux pas en savoir plus que mes personnages à l'avance. Donc je veux toujours découvrir le récit en même temps qu'eux, je veux être mon premier lecteur. Donc je ne veux pas écrire à l'avance un scénario que je n'aurais plus qu'à dessiner ensuite. C'est la raison pour laquelle j'essaie de garder la matière scénaristique la plus vivante possible et être le plus possible à l'écoute de ce que je suis au moment où je raconte une scène. Donc voilà, ça se construit un peu au quotidien avec des discussions, avec des souvenirs, avec des choses auxquelles j'assiste, des anecdotes qu'on me raconte ou des choses que je vois dans la rue. Et ça vient nourrir, comme je vous le disais, ces 10-12 points de repère que je m'étais donné au départ.
Est-ce que déjà les dialogues apparaissent ou des éléments de dialogue apparaissent à ce moment-là ?
Ils viennent toujours au moment où je suis dans la scène. Ils n'arrivent jamais en avance. Et les dialogues, je les joue à voix haute, en fait, moi. Donc, je peux passer parfois 2-3 jours, une scène de 4-5 pages de dialogue, je peux passer 2-3-4 jours à uniquement réciter les dialogues jusqu'à, selon moi, arriver à la forme la plus pertinente et la plus juste. Donc, je dois avoir l'air un peu maboule, je pense, de l'extérieur, mais je suis dans mon atelier, donc a priori, personne m'observe, et je suis à voix haute en train de jouer les différents personnages jusqu'à trouver leur phrasé. Ça, je pense que ça vient du fait que mes parents étant comédiens, j'ai grandi vraiment en voyant au quotidien, pendant qu'ils faisaient la cuisine, pendant qu'ils faisaient ménage ou que sais-je, voir mes parents réciter leurs textes à voix haute. C'est un truc pour moi, j'ai grandi avec ça, avec ce truc-là sous les yeux, et je pense que je l'ai reproduit sans même trop m'interroger là-dessus.
Alfred, est-ce qu'il y a le fait d'avoir donc des parents comédiens, est-ce que ça jouait aussi sur la construction même des personnages ? Parce ouais. qu'il y a vraiment une sorte d'évidence de dans les relations, là, sur les différents dialogues, bien sûr, mais sur les situations de vie que vous donnez à vos personnages.
En fait, il est vrai que je construis mes histoires comme si c'était des petites pièces de théâtre. À chaque fois, je prends un lieu unique, j'allais dire, chaque scène, c'est un lieu, 2-3 personnages et une petite scène qui pourrait presque être un petit sketch. Je pense que ça vient vraiment aussi de l'éducation que j'ai reçue et de la manière que j'ai eue de voir mes parents raconter eux-mêmes des histoires. Ils avaient un théâtre qui était assez dépouillé quand j'étais gamin. Et moi, depuis les coulisses, j'observais ces 4 comédiens, imaginez qu'il y avait une foule de 200 personnes, imaginez qu'il y avait un château derrière eux alors qu'il n'y avait rien sur scène. Le contrat qui était passé avec le public faisait que tout le monde acceptait qu'il y ait 300 personnes puisqu'on nous disait ou acceptait qu'il y ait un château. Et moi, je crois que je suis resté sur ce modèle-là pour construire mes récits, c'est-à-dire que j'essaie de prendre quelques éléments qui indiquent bien la scène, comme si c'était encore une fois, ça pouvait se monter sur un plateau, et j'essaie de pas trop m'éparpiller, de pas trop m'éloigner de ces quelques éléments de départ. Donc je pense qu'il y a une vraie, oui, influence de ce que j'ai reçu de mes parents sur ma manière de penser mes histoires et de les construire.
Alfred, est-ce qu'il y a un retour, une fois que vous avez avancé dans le récit, c'est des récits d'ampleur, le nombre de pages est important, là on a 184 pages. Est-ce qu'il y a un moment, un retour en arrière, une prise de recul, comment travaillez-vous ?
Alors ça, c'est la plus grande difficulté pour moi, j'ai beaucoup de mal à me relire, donc je relis assez peu ce que je fais. Et il m'arrive parfois d'avancer dans une direction, de m'apercevoir que je me suis trompé, que j'ai dessiné 10 pages qui ne vont pas dans le bon sens, et dans ce cas-là, bah, je les retire. Je me débarrasse de ces 10 pages en trop. Donc c'est pas vraiment une méthode extrêmement efficace. Je vais pas l'enseigner dans les écoles, celle-ci, parce que effectivement, si j'écrivais à l'avance, peut-être que ce genre de mésaventure m'arriverait moins souvent. mais j'arrive pas à faire autrement. Donc c'est vraiment, j'ai essayé hein, de faire des choses en écrivant plus à l'avance et j'y arrive pas. C'est quelque chose qui me correspond pas. Donc il y a toujours un temps où il y a une relecture de la part de mon éditeur, surtout, et c'est à lui que je fais confiance là-dessus. Je lui envoie des pages sans trop les relire moi et j'attends son retour et qu'il me dise lui si selon lui ça sonne juste. C'est la question que je lui pose à chaque fois. Est-ce que ça sonne juste? Parce qu'après qu'il y ait quelques longueurs, qu'il y ait quelques temps de contemplation, etc., pour moi, ça fait partie de mon rythme. Par contre, je demande juste que ça sonne juste quand on le lit. Et ça, c'est mon éditeur qui est une personne de confiance, David Chauvel, avec qui je travaille depuis longtemps. Et j'attends beaucoup de ses retours. Oui. C'est lui qui m'indique, qui m'aiguille un peu.
Alfred, il y a un personnage très fort qui va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire. C'est celui qu'on appelle le débile, qui est souvent nommé comme cela, et qui est chanteur aussi. Comment s'est créé ce personnage? Il est tout de suite apparu et comment avez-vous imaginé finalement une chaîne narrative avec sa présence à différents moments du récit? Est-ce qu'il y a assez vite une conviction de ça?
Alors, ce qui est très intéressant avec ce personnage, c'est que je l'ai croisé en vrai, sans savoir qui il est, sans savoir ce qu'il faisait là, mais je l'ai croisé pendant un séjour en Calabre, où j'étais avec ma fille, sur la plage. On a vu arriver du bout de la plage un type déguisé, comme dans ma bande dessinée, déguisé en cheval, avec un déguisement de cheval et un tambourin. Et tout le monde sur la plage s'est arrêté pour regarder passer, sans savoir ce qu'il faisait. Il faisait pas la manche, il annonçait pas un spectacle en ville. On n'a pas compris ce qu'il a fait, mais il a traversé toute la plage en tapant sur son tambourin et en faisant des vocalises, et il a disparu. Ça, c'est des choses, moi, quand je crois ça, je ne peux pas faire autrement que de me dire c'est une matière merveilleuse. Je ne sais pas qui est cet homme-là, je ne sais pas si c'était véritablement un simplet ou pas du tout. Si c'est quelqu'un qui faisait une blague ou qui avait perdu un gage, je n'en sais rien. Toujours est-il que cette apparition, moi, elle m'intéresse, elle m'intrigue, elle m'évoque plein d'histoires possibles. Et très rapidement, donc, ce personnage fait partie des 3-4 premiers que je vais intégrer dans le récit, sans savoir encore quel rôle il jouera. Mais je le trouve tellement fort quand je le vois en vrai que je veux qu'il ait une place dans ce récit que je suis en train de faire. Et je ne sais pas jusqu'à la fin quel rôle et quel dénouement je lui ferai interpréter. C'est-à-dire que ce que vous évoquez sur le fait qu'on découvre qu'il chante, c'est quelque chose que je décide 10 jours avant de le dessiner. Jusqu'au départ, je ne sais pas qui est ce type-là. Je sais juste qu'il a un rôle à jouer dans mon livre. Je veux qu'il y soit, mais je ne sais pas encore. C'est exactement la même chose comme pour les petits gamins qu'on voit au début, le petit Loupeau, qui au départ devait apparaître que sur 3 pages du début et plus du tout, et va en fait s'imposer parce que sa présence vient raconter quelque chose de plus que ce que je pensais au départ. Donc je me laisse vraiment surprendre parce que les personnages ont eux-mêmes à me raconter et à me dire.
Alfred, je vous propose une pause musicale. On se retrouve donc dans quelques minutes. Et puis on parlera dessin. À tout de suite.
Yeah. I'm gonna tell you just a
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Alfred pour parler de Mal Tempo, le dernier livre de sa trilogie italienne. Alfred, quel dessinateur êtes-vous ? Comment se passe votre acte de dessiner sur votre planche à dessin ?
Alors déjà, il démarre, ça, c'est une vraie belle question étrange qui mériterait une émission complète. Déjà, mon acte de dessin, il commence très tôt le matin, quand la maison est encore endormie, et je démarre toujours par un quart d'heure, 20 minutes, tous les matins, de dessin libre. Je mets des écouteurs, j'écoute une musique un peu aléatoire, mais très douce, qui va m'accompagner pour me réveiller la main. Et ça démarre comme ça, un peu avant 7h du matin, dans des carnets, des dessins libres qui peuvent à la fois être complètement abstraits, qui vont être des résidus de rêve, ou être des paysages dans lesquels je me laisse un peu absorber. Donc déjà, je suis un dessinateur qui a besoin de ce temps pour, démarrer sa journée. Après, quand je suis dans ma journée de travail, je suis un dessinateur... comment dire ça, tâtonnant. Je vais pas hésiter à recommencer 4, 5, 6 fois une image pour voir quelle est celle qui me semble être la plus pertinente, quitte à ce que parfois ce soit pas le plus beau dessin des 3-4 que je conserve, mais celui qui me semble avoir la musique la plus juste. Voilà, j'essaie d'être un dessinateur musical d'une certaine manière, même s'il y a des fausses notes, ça me dérange moins que le contraire.
Il y a dans la lecture de Mal Tempo cette présence des doubles pages qui apporte une grande fluidité à la lecture, où on est vraiment à chaque fois dans des cadrages qui sont parfaitement en harmonie les uns avec les autres. C'est une unité de temps qui est aussi une des bases de votre travail, Alfred.
J'ai besoin qu'il y ait des temps contemplatif dans mes livres, ces doubles pages de paysages dont vous parlez, j'en ai d'abord besoin pour moi, en fait. Quand je les mets dans un récit, c'est qu'il me semble qu'à ce moment-là, il faut une respiration, qu'elle soit pour moi au moment où je suis en train de le faire, et peut-être, j'espère, pour le lecteur et la lectrice derrière. Donc c'est un temps pendant lequel je retourne à travers le dessin en Italie. Le temps de réaliser ce dessin, je suis là-bas. C'est une manière pour moi de voyager. Et j'ai régulièrement besoin de faire ce voyage-là. Donc ces doubles pages, qui interviennent assez régulièrement d'ailleurs, sont des manières pour moi de reprendre mon souffle, de retourner un peu en Italie de manière poétique et d'essayer de redémarrer le récit avec une énergie renouvelée, quoi. Voilà à quoi me servent ces moments de contemplation.
Et pour représenter la musique ? Est-ce que ça a été un moment particulier ? Parce que dans la lecture, c'est un moment particulier.
Ouais. Moi, je suis musicien, mais je ne lis pas la musique. Donc, quand on représente en bande dessinée la musique avec des notes, pour moi, ça n'évoque jamais rien. Ça n'évoque jamais la musique. Les notes ne me racontent pas un son. Quand j'ai voulu dessiner donc de la musique, il est important pour moi d'essayer plutôt de capter les vibrations de la musique, les vibrations du son. En l'occurrence, dans ce livre, dans Mal Tempo, ça va être plutôt du rock and roll que font les gamins. Et donc, j'avais envie d'essayer d'attraper, à travers le trait, les vibrations, les dissonances même et les énergies que peuvent produire une musique de rock and roll avec des guitares saturées et une batterie tapée lourdement. Donc, c'était ça qui m'intriguait bien plus que si je n'avais représenté ça par des notes, des musiques et des portées qui, à mon avis, ne parlent pas à grand monde quand on n'est pas musicien un peu aguerri. Donc voilà, j'avais à cœur de me dire comment, représenter du son avec des traits, avec des couleurs, avec des vibrations. Et voilà, la proposition que j'en fais dans ce livre est celle-ci.
Alfred, et pour la couleur, parce qu'on a là aussi l'impression qu'il y a, un rythme. Est-ce que vous anticipez, est-ce que vous imaginez les moments du récit avec tel et tel type de couleur, tel et tel type de contraste, au contraire des unités de ton?
En fait, je dessine en noir et blanc, mais avec toujours dans un coin de mon œil la lumière colorée qui accompagnera mon dessin. Donc il y a toujours dans ma tête deux, trois teintes qui viennent englober ce que je suis en train de dessiner, même si elles ne sont pas précises, je sais à peu près où je vais aller. Ensuite, que je réalise moi-même les couleurs ou que je les fasse en collaboration, comme dans ce livre avec Laurence Croix, je lui donne des indications assez claires. En tout cas, je vais lui expliquer, je vais lui raconter le soleil qui cogne tellement fort que le ciel en devient blanc. Je vais lui expliquer la nuit tellement chaude que le bleu en est sourd. Je vais essayer de lui parler de ce genre de choses parce que c'est au moment même où je dessine, même si c'est en noir et blanc, j'essaie d'intégrer ces indications dans mon trait lui-même. Ça se passe en deux temps dans la réalisation, le dessin puis après la couleur, mais au moment de la réalisation, en revanche, la teinte générale de la scène accompagne mon trait, on va dire.
Il y a un point que je trouve assez particulier dans votre écriture dessinée, Alfred, ce sont les regards. Souvent des regards francs avec des grandes pupilles noires. Comment se passe cette relation avec vos personnages?
C'est intéressant, ça, encore une fois, comme on voit. Je n'avais pas forcément fait attention à ça, mais je sais que j'accorde un soin à... Alors d'abord, je commence tous mes visages par le regard. Quand je dessine, c'est le premier élément qui apparaît sous mon crayon, puis le reste du visage suit. Et j'essaie déjà, dans le regard, qu'il soit très expressif ou qu'il soit au contraire très discret, puisqu'il y a des tas de moments où je me contente d'un petit point pour indiquer une expression, j'essaie de faire en sorte qu'on saisisse à peu près tout de suite ce qui est en train de se passer à l'intérieur, de ce qui se passe justement derrière le regard du personnage. C'est une des grandes questions que je me pose, c'est est-ce qu'on comprend ce qu'il ressent uniquement à travers 3-4 éléments, en particulier ses yeux. Donc ça me fait plaisir que vous ayez repéré ça, mais je pense que je fais ça de façon assez instinctive, en fait. Et mes visages se construisent autour des yeux, toujours.
D'avoir terminé cette trilogie italienne, Alfred, ça va vous permettre de conquérir quelle nouvelle tranche d'horizon?
Eh bien, je ne sais pas encore, figurez-vous. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu la sensation avec ce troisième livre italien que j'avais fait le tour d'une certaine grammaire graphique, d'une manière de raconter, d'une certaine rythmique, et qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. J'ai pas mal de pistes en tête et de choses déjà un peu amorcé, mais sans avoir encore ni décidé sur quoi je m'embarquais vraiment, ni décidé avec quel type d'outils, sur quel type de format, est-ce que c'est plutôt des spectacles, est-ce que c'est plutôt des livres. Donc là, je suis dans une période un tout petit peu flottante, qui n'est pas forcément désagréable, mais il ne faudra pas qu'elle dure trop, durant laquelle je suis à la fois, j'ai plein de possibles, et je n'ai pas encore décidé ni hiérarchisé par quoi j'allais commencer. Donc, je ne peux pas vous répondre tout de suite. On se reparle dans quelques mois, si vous voulez. J'espère avoir trouvé la réponse ici là. Ce que je sais, en tout cas, c'est que la rythmique qui a été la mienne pendant Come Prima, Senso et Maltempo, j'en ai un peu fait le tour. Il faut que j'aille voir un peu ailleurs si j'y suis. Et c'est maintenant que c'est en train de se décider, sans avoir encore trouvé.
Merci beaucoup, Alfred. J'ai rappelé les références donc de Maltempo. Donc c'est le troisième tome de cette trilogie, Come Prima, Senso et Maltempo. Les 184 pages de ce récit sont au prix de 24 €. C'est publié par les éditions Delcourt dans la collection Mirage et c'est imprimé en Belgique. Eh bien, à très bientôt, Alfred.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Open the door.
le lien avec le livre que je vais présenter pour finir cette émission et donc Maltempo, c'est pas la musique, mais c'est cette implication dans une écriture dessinée, dans un rapport au récit d'une très grande intensité, dans une volonté de précision et d'avoir cette liberté d'écriture aussi, de pas donc être soumis forcément à ce récit préalable, plus ou moins storyboardé et découpé, mais d'être vraiment dans cette écriture dessinée. Le livre, c'est Chumbo de Mathias Lehmann. Alors, Chumbo, en portugais, ça veut dire plomb, des anos de Chumbo, les années de plomb, et c'est effectivement un élément essentiel de cette histoire de Mathias Lehmann. C'est un récit d'ampleur, il fait 368 pages, donc quand vous avez ce livre en main, il y a vraiment une relation au livre qui n'est pas la même que lorsque vous prenez un livre plus court en bande dessinée. Il y en a beaucoup qui vont faire par exemple 46 pages et c'est encore une grande partie des livres d'aujourd'hui. Alors, Chumbo, en quoi c'est un récit d'ampleur et quel était le projet narratif de Mathias Lehmann? Alors, c'est une saga brésilienne qui va courir sur pratiquement 70 ans. On va démarrer à la fin des années 30. Il y a donc une nouvelle dictature qui se met en place en 1937 avec l'instauration par Getúlio Vargas de cette dictature. Donc c'est une nouvelle constitution et un état nouveau qui démarre. Donc la relation entre le récit et les différents moments de l'histoire qui vont courir sur 70 ans est assez essentielle. Il y a notamment, par exemple, en 64, le coup d'État qui va renverser João Goulart, qui avait initié une politique de réforme sociale, eh bien va être balayé par le coup d'État mis en place par le président Costa et Silva, d'où l'expression des années de plomb. Le projet de Mathias Lehmann, c'est effectivement de raconter cette histoire du Brésil, notamment à partir de sa vie politique, mais de le raconter au niveau du quotidien des Brésiliens. Donc Mathias Lehmann est un franco-brésilien et il a donc des attaches très importantes, très fortes au Brésil. Et il a choisi de placer son récit à Bella Horizonte, qui est donc dans un quartier assez important. Bella Horizonte, c'est une ville qui a 3 millions d'habitants. Ce n'est pas rien. L'état dans lequel il se trouve, c'est le Minas Gerais. Et on va suivre une famille, la famille Wallace, qui va être déclassée au fur et à mesure des changements politiques. Et la dictature va aussi laisser des traces profondes. On démarre au début du récit avec la figure paternel d'Oswaldo Wallace, qui est industriel, qui dirige d'une mine, sa femme, Marie Augusta, qui va délaisser l'écriture pour assumer son rôle de mère et soutenir ainsi son mari en restant donc au foyer. Il y a les cinq enfants, Ramirez, Severino, Adélia, Ursula et Bérénice. Et donc, on va vraiment voir ces personnages au départ qui vont avoir le temps d'évoluer. Severino, par exemple, va devenir écrivain et va reprendre peut-être cette plume que ressentait sa mère qui souhaitait donc écrire. Et Severino va avoir donc un succès assez important. En mettant en scène cette famille dans la durée, on va échapper aux archétypes suffisamment classiques. Et ça fait partie du projet de Mathias Lehmann, donc de nourrir et de donner une épaisseur aux personnages qui vont réagir aussi bien à la situation politique de l'État brésilien, mais aussi à la situation politique locale, aux baronnies présentes. Il y a notamment dans l'histoire politique du Brésil une influence à la fois de la pensée communiste qui va susciter des luttes pour améliorer les conditions ouvrières, pour sortir les ouvriers de l'esclavage puis de la précarité. Il y a également, à l'opposé, une sorte de collusion entre le pouvoir et l'extrême droite. On a notamment une scène avec un représentant de l'extrême droite qui va donner un cours de torture. Et ça montre, dans toute cette histoire, l'importance de la présence de l'extrême droite au Brésil. Et l'arrivée de Jair Bolsonaro n'est pas un hasard dans ce pays. Cette extrême droite fait partie de l'histoire brésilienne. L'importance de ce projet, c'est que lorsqu'on lit, on est dans un dessin qui est tout le temps au plus près des personnages. C'est un dessin noir et blanc qui est avec une précision du trait. Ce qui est important, c'est que Mathias Lehmann utilise un découpage où le nombre de cases est quand même assez important. Il n'hésite pas à fragmenter les hauteurs de cases pour avoir un peu plus d'images dans sa page, pour être plus dans le dialogue. Il se donne des espaces de contemplation avec de grandes images sur une double page. Donc il y a un mouvement dans la construction de son récit qui va vraiment être adapté selon les situations, qui reprend ainsi une liberté et une variété que l'on trouve dans les bandes dessinées brésiliennes tout au long du XXe siècle. C'est une façon aussi de nous attriper, de nous agripper, de nous mettre immédiatement dans le récit, et l'importance des dialogues va aussi jouer un très grand rôle. On est dans les histoires des uns et des autres, on est dans cette très grande histoire brésilienne, mais tout le temps en restant au niveau local avec des très beaux personnages féminins qui vont être dans une émancipation, dans une lutte pour cette émancipation très forte, avec parfois des impossibilités. Et c'est grâce à l'ampleur du récit que Mathias Lehmann peut aller aussi loin dans l'écriture de ses personnages. C'est aussi un dessin qui a une grande incandescence et qui fait que la plume semble griffer parfois le papier et va donner donc cette intensité aux images de Mathias Lehmann. Chumbo, donc de Mathias Lehmann, est publié par les éditions Casterman. C'est vraiment un récit étonnant. Vous n'avez rien lu de pareil, ça c'est sûr. Et les 368 pages de ce récit sont au prix de 30 euros. Et il me semble que oui, le livre est imprimé en Belgique. Eh bien, merci Fabien pour cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine et on sera avec Rebecca D'Autremer, qui est une illustratrice pour la jeunesse, mais pas que. C'est une artiste nomade qui a un très grand nombre de cordes à son arc, et je pense que ça sera un grand moment. À la semaine prochaine et bonne semaine à tous.
Écriture dessinée.